Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel. Installez-vous confortablement pour partager une tasse de thé avec Janine Rogers, à la technique Simon Martin. Mrs. Dalloway, publiée en 1925, reçut un excellent accueil de la critique et du public. C'est le récit de 24 heures de la vie d'une femme d'une cinquantaine d'années appartenant à la bonne société londonienne. Elle sort le matin de chez elle pour aller acheter des fleurs qui décoreront sa maison au cours d'une réception qu'elle donnera le soir. Le roman n'est pas découpé en chapitres. C'est un monologue intérieur qui mêle des souvenirs surgis du passé, par exemple la demande en mariage qu'elle avait reçue à 18 ans de Peter Walsh et qu'elle avait déclinée, aussi ses impressions présentes, la sonnerie de Big Ben, un avion qui survole la ville, et ses inquiétudes pour le futur sur la réussite de sa réception. Alors je vais vous citer le début, plutôt vous lire le début du roman qui montre bien quelle va être la façon d'écrire, le mode d'écriture de Virginia Woolf. Donc c'est le tout début. Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter des fleurs. Car Lucy avait bien assez de pain sur la planche. Et quelle matinée, pensa Clarissa Dalloway. Toute fraîche, un cadeau pour des enfants sur la plage. La bouffée de plaisir, le plongeon. C'est l'impression que cela lui avait toujours fait lorsque, avec un petit grincement des gonds qu'elle entendait encore, elle ouvrait d'un coup les portes-fenêtres à Bourton et plongeait dans l'air du dehors. Que l'air était frais, qu'il était calme, plus immobile qu'aujourd'hui, bien sûr, en début de matinée. Comme une vague qui claque, comme le baiser d'une vague. Vif, piquant, mais en même temps, pour la jeune fille de 18 ans qu'elle était alors, solennel pour elle qui avait le sentiment, debout devant la porte-fenêtre grande ouverte, que quelque chose de terrible était sur le point de survenir. Elle qui regardait les fleurs, les arbres avec la fumée qui s'en dégageait en spirale, et les corneilles qui s'élevaient, qui retombaient. Resta à regarder jusqu'au moment où Peter Walsh avait dit « Songeuse au milieu des légumes » Était-ce bien cela? Oui, n'était-ce pas plutôt « Je préfère les humains aux choux-fleurs » Il avait dû dire cela un matin au petit déjeuner alors qu'elle était sortie sur la terrasse. Peter Walsh. Il allait rentrer des Indes, un jour ou l'autre, en juin ou en juillet, elle ne savait plus exactement, car ses lettres étaient d'un ennuyeux. C'est ce qu'il disait qu'on retenait. Ses yeux, son couteau de poche, son sourire, son air bougon. Et puis, alors que des milliers de choses avaient disparu à jamais, c'est tellement bizarre, une phrase comme celle-ci à propos de choux. Elle se raidit un peu au bord du trottoir, laissant passer le camion de livraison de Dartnall. Une femme charmante, ce Scrope Purvis, qui la connaissait comme on connaît à Westminster les gens qui habitent la maison d'à côté. Elle avait quelque chose d'un oiseau, un jet, bleu-vert avec une légèreté, une vivacité, bien qu'elle ait plus de 50 ans et qu'elle ait beaucoup blanchi depuis sa maladie. Elle était là, perchée sans le voir, très droite, attendant de traverser. Car lorsqu'on habite Westminster, depuis combien de temps en somme? Plus de 20 ans. Même au milieu de la circulation, ou lorsqu'on se réveille la nuit, on ressent, Clarissa en avait l'intime conviction, une certaine qualité de silence, quelque chose de solennel, comme un indéfinissable suspense. Mais c'était peut-être son cœur dont on disait qu'il avait souffert de la grippe espagnole. Juste avant que ne sonne Big Ben, Et voilà, cela retentit. D'abord un avertissement musical, puis l'heure irrévocable. Les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air. « Que nous sommes bêtes !» se dit-elle en traversant Victoria Street. « Dieu seul sait la raison pour laquelle nous l'aimons tant et cette manière que nous avons de la voir, de la construire autour de nous, de la bousculer, de la recréer à chaque instant. » Et les mégères informes, les rebuts de l'humanité assis sur le pas des portes, l'alcool ayant causé leur perte, en font autant. On ne peut pas régler leur sort par de simples décrets ou règlements, précisément pour cette raison. Ils aiment la vie. Dans les yeux des gens, dans leur démarche chaloupée, martelée ou traînante, dans le tumulte et le vacarme, les attelages automobiles, les omnibus, les camions, les hommes sandwich qui se fraient un chemin en tanguant, les fanfares, les orgues de barbarie, dans le triomphe et la petite musique et le drôle de bourdonnement là-haut d'un avion, dans tout cela se trouvait ce qu'elle aimait, la vie, Londres, ce moment de juin. Car c'était la mi-juin. La guerre était finie. Les commerçants arrangeaient dans leurs vitrines strass et diamants et de jolies broches anciennes verres d'eau avec leurs montures 18e, faites pour tenter les clients américains. Mais il faut se montrer économe, ne pas acheter à tort et à travers pour Elisabeth. Et elle également, elle aimait tout cela. D'une passion absurde et fidèle, celle qui appartenait à ce monde, elle dont les ancêtres fréquentaient la cour, déjà, sous la dynastie des Georges, elle aussi, ce soir même, allait briller de tous ses feux, donner sa réception. Mais que c'était étrange en entrant dans le parc. Le silence, la brume, le bourdonnement, les canards bienheureux qui nageaient lentement, les oiseaux à jabot qui se dandinaient. Et tiens, justement, qui s'approchait, tournant le dos au ministère, comme toujours là où il fallait, portant une serviette aux armes royales, nul autre que Hugh Whitbread, son vieil ami Hugh, l'admirable Hugh. « J'ai l'honneur de vous saluer, Clarissa, » dit-il, ce qui était assez pompeux de la part de quelqu'un qui la connaissait depuis qu'ils étaient enfants. Où allez-vous de ce pas ? J'adore marcher dans Londres, dit Mrs. Dalloway. C'est plus agréable, en fait, que de marcher à la campagne. Et ainsi, elle va toute la journée passer de Londres, de sa visite, de sa marche dans Londres, à son... chez elle, cette réception. D'autres personnages sont présents dans ce dialogue, soutenant les thèmes qui hantent Virginia Woolf, le déclin de l'Empire britannique, la société britannique de l'époque, l'égalité des droits hommes-femmes qui lui tient beaucoup à cœur, et aussi la mort. Virginia Woolf manie à la perfection la technique du monologue intérieur. Les dialogues se mêlent à la narration, ce qui donne de la fluidité au style. Elle est à juste titre considérée comme l'une des plus grandes romancières du XXe siècle et de nombreuses études lui sont consacrées encore aujourd'hui. La plupart de ses œuvres ont été récemment retraduites pour son entrée en 2012 dans la Pléiade. Parmi ses romans, citons en 1927 « La promenade au phare ». Un enfant de 6 ans exprime le désir d'aller jusqu'au phare. « Oui, bien sûr, s'il fait beau demain, » lui répond sa mère. « Mais, » dit son père, « il ne fera pas beau demain. » C'est le tout début du roman et c'est seulement 10 ans plus tard que la famille se retrouvera au phare pour réfléchir aux années écoulées. En 1928, Orlando, histoire invraisemblable d'un jeune lord dont la vie s'étire sur 3 siècles, alors qu'il reste toujours âgé de 30 ans. Tantôt homme, tantôt femme, Ce personnage a été inspiré par Victoria Sackville-West, amie intime de Virginia, avec laquelle elle eut une liaison. En 1931, les vagues, 6 monologues intérieurs ponctués par le rythme des marées, et enfin en 1937, les années. Il faut y ajouter son journal, sa correspondance, des articles et de nombreux essais. Elle a aussi inspiré des auteurs modernes, dont l'écrivain américain Michael Cunningham, qui raconte dans son roman « Les heures » l'histoire de 3 femmes bouleversées par la lecture de Mrs. Dalloway. Cet ouvrage a d'ailleurs été adapté au cinéma. Il y aurait tellement plus à dire sur celle qui a dominé le monde littéraire britannique du XXe siècle. Celle dont le mari a écrit « Elle est la seule personne que j'ai connue intimement et dont je peux dire qu'elle méritait l'appellation de génie. » Je vous souhaite une bonne lecture.
Smoked his stogies in bed, but I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. I asked the boy for a few kind words. He gave me a novel instead, but I'm all right, I'm all right. It's okay, it was wrong, either way. I just wanted to say it isn't much fun when you're drinking for one. He got drunk, he fell down, he threw a few of my things around. But I'm all right, I'm all right. Bubbles in bed.